Déclaration qu'on aime faire ici à la vie comblée. On va prendre nos Bibles, ou si vous n'avez pas une Bible, il y a une feuille avec presque tous les versets marqués dessus. Parce qu'on croit, qu'est-ce que la Bible nous enseigne en fait, c'est que ce qu'on dit avec notre bouche et ce qu'on croit dans notre cœur s'accomplit. Donc on va faire cette déclaration. Voici ma Bible. C'est la parole inspirée de Dieu. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la parole inspirée de Dieu, la semence incorruptible de Dieu. Et je ne serai jamais plus pareil, mais je serai pour toujours et à jamais changé au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc, si vous voulez aller avec moi à 2 Corinthiens chapitre 5, la semaine passée, on a commencé à parler d'un sujet passionnant. Qu'est-ce que ça veut dire d'être ambassadeur pour Jésus-Christ? Et on a dit que selon les Écritures, nous sommes tous les enfants de Dieu, mais nous sommes tous appelés à remplir la fonction d'ambassadeur pour Jésus. On va lire le texte qui est ici en 2 Corinthiens, et chapitre 5, le 16e verset, qui dit « Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » N'est-ce pas une bonne nouvelle? Vois-tu, la vie chrétienne, ce n'est pas une religion, c'est une relation avec Dieu. Ce n'est pas une question d'aller à l'église, de faire des choses exactement de la même façon à chaque semaine, de devenir religieux. Qu'est-ce qui compte dans la vie? La seule chose qui compte, c'est de passer de la mort spirituelle à la vie spirituelle, d'être né de nouveau et de devenir une nouvelle créature en Jésus-Christ, une nouvelle espèce de créature qui n'a jamais existé auparavant. Amen. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Tout le monde dit, j'ai reçu le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc ici, nous voyons, on a vu la semaine passée, que même si vous êtes né au Canada, vous êtes citoyen canadien, même si vous vous considérez être Drummondvillois, si vous êtes une nouvelle créature en Jésus, votre cité à vous, votre vraie cité, c'est dans les cieux. Vous êtes déjà devenu citoyen du ciel. Amen. Et vous êtes ici sur la terre, vous vivez vraiment à l'étranger. Vous êtes étranger ici sur la terre. Savez-vous que vous n'êtes pas étrange, mais étranger. Mais quelques-uns, non. Pas étrange, mais étranger. Ici sur la terre, pour remplir la fonction d'ambassadeur. Vous vous rappelez de qu'est-ce qu'on a dit, c'est ambassadeur. Un ambassadeur, c'est un ministre du rang le plus élevé. Savez-vous que vous avez une place de dignité dans la famille? Et vous êtes ici, c'est un ministre du rang le plus élevé qui est employé par un prince ou employé par un État ou un pays, OK? À la cour d'un autre prince ou à la cour d'un autre État. Pourquoi? Pour effectuer les affaires de son État natal. C'est-à-dire que vous êtes né d'en haut, vous êtes né de nouveau, votre cité à vous, c'est aux cieux, et vous êtes laissé ici sur la terre pour fonctionner à l'étranger comme un représentant du ciel, du gouvernement du ciel. Vous êtes mandaté par Dieu lui-même pour faire les affaires du ciel ici sur la terre. Et à tous les jours que vous vous réveillez, vous devrez dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? Tu veux parler à quelqu'un? Me voici, utilise-moi. Tu veux toucher quelqu'un? Voici mes mains, je vais le faire. Mais Seigneur, comme la Bible dit, c'est comme si Dieu exhortait par nous, c'est comme si Dieu lui-même est en train de parler. En exhortant à travers nous, on supplie, on demande aux hommes et aux femmes et aux enfants d'être réconciliés avec Dieu. Vous êtes le porte-parole de Dieu. Vous êtes ambassadeur, ambassadrice pour Jésus-Christ. quand vous parlez, c'est aussi bien que si Jésus-Christ lui-même parlait. Est-ce que ça, c'est du blasphème ou est-ce que ça, c'est la vérité? Quand vous parlez au nom de Jésus, quand vous parlez juste de vous-même et vous dites les bêtises, hein, il n'y a pas de puissance. On sait tout. Mais quand vous parlez au nom de Jésus, avec l'autorité de Jésus, et quand vous parlez en ligne et en accord avec la parole de Dieu et la volonté de Dieu qui nous a été révélée, la parole de Dieu dans votre bouche est aussi forte et aussi puissante que la parole de Dieu dans la bouche de Dieu lui-même. Amen? C'est pourquoi vous pouvez parler, même à la maladie, vous pouvez chasser les démons, vous pouvez supplier avec les hommes, soyez réconciliés avec Dieu. Nous sommes les ambassadeurs de Jésus-Christ. Et qu'est-ce que Dieu veut faire dans ces derniers temps, dans ces derniers jours? Il veut que tout le corps de Christ se lève, que tout le monde prenne sa place, qu'à 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il veut qu'on soit et qu'on devienne l'armée de Dieu. Amen. Partager ça avec quelques-uns dans ma classe ce matin. La vision, la passion que j'ai pour le Québec. Notre cœur est ici. Et je sais que qu'est-ce que Dieu veut faire avec ce peuple, avec nous, avec la province du Québec. Dieu veut susciter ici dans cette province une armée des croyants, des hommes et des femmes qui savent qui ils sont en Jésus, ceux qu'ils ont en Jésus et ceux qu'ils peuvent faire en Jésus et qui sont prêts à prendre leur place dans l'histoire. Amen. Et Dieu veut nous utiliser pour atteindre les autres 51 pays francophones. Amen. C'est ça que Dieu veut faire avec vous. C'est pas avec moi ou ceux qui prêchent ou ceux qui jouent la musique. Des fois, on pense, oh, mais ça, c'est pour ceux qui sont appelés. Nous sommes tous appelés à être ambassadeurs pour Jésus-Christ. Quelques-uns de vous, vous n'allez jamais quitter le Québec, mais vous allez quand même toucher les autres pays. Comment? Parce que vous allez prier, parce que vous allez donner, parce que vous allez peut-être témoigner à quelqu'un d'autre qui va devenir un ambassadeur à l'étranger plus tard. Amen? Imagine, tout le monde connaît Billy Graham, n'est-ce pas? Combien d'âmes il a amené au Seigneur, on ne sait pas, mais des millions, littéralement, des millions d'âmes. Mais qui connaît le nom de la personne qui a amené Billy Graham au Seigneur? Est-ce que quelqu'un le sait? Quelqu'un? Personne ne sait? Mais est-ce que tu es content? Est-ce que vous êtes content qu'elle a fait sa job? Je pense que c'était une femme, si je m'en souviens bien. J'ai oublié son nom. Je n'ai pas oublié le nom de Billy Graham. Mais qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que c'est plus important que qu'est-ce qu'elle a fait? Vous savez, vous avez un rôle important et indispensable à jouer, mais vous êtes ambassadeur, mais pour vivre comme ambassadeur, il faut penser comme un ambassadeur. Amen? Si, par exemple, une personne pense « je suis bon à rien », il va agir comme un bon à rien. Si quelqu'un pense « mais moi, je suis juste un vieux sale type », qu'est-ce qu'il va faire? Il va agir comme ça. Pas pour être vulgaire, mais c'est vrai. Mais si quelqu'un pense, tu sais, moi je suis la justice de Dieu, je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ, je suis sanctifié par le sang de Jésus, je suis aimé de Dieu et j'aime Dieu, il va agir comme quelqu'un qui est saint, consacré et dévoué. Amen. Quelqu'un qui pense, mais moi je suis juste spectateur, je viens à l'église, je vais réchauffer en banc, et pendant que le pasteur prêche, il ne va pas faire grand-chose. Mais quelqu'un dit, mais moi je vais à l'église pour être ressourcé, pour être équipé, pour que moi, je puisse sortir de l'Église et faire du ministère comme un ambassadeur de Jésus, là, ça va changer le monde. Vous savez, ma vision pour l'Église, je ne suis pas le curé de la vie comblée. Je suis plutôt le coach de la vie comblée. Vous êtes les joueurs, vous êtes les soldats, vous êtes les hommes et les femmes qui vont sortir d'ici, aller dans les hôpitaux, imposer les mains sur les malades, vous allez aller dans votre place de travail, dans vos foyers, dans la rue, au magasin, c'est vous autres qui vont laisser lui la lumière. Amen. Amen. Bien entendu, nous allons faire notre part aussi. Tania vient de me rappeler. Hein? Merci, chérie. Alléluia. Mais pour agir comme ambassadeur, il faut penser comme ambassadeur, c'est-à-dire qu'il faut développer les attitudes d'un vrai ambassadeur de Jésus. Pensons à l'ambassadeur du Canada qui habite maintenant, que ce soit en Cameroun, que ce soit à Togo, que ce soit en France. Celui qui est l'ambassadeur qui représente le Canada, on ne veut pas qu'il oublie son rôle. On ne veut pas qu'il oublie pourquoi il est là. On veut qu'à chaque minute de chaque jour, qu'il soit conscient qu'il représente le Canada devant ce peuple étranger. N'est-ce pas vrai? C'est la même chose pour vous en tant que chrétien. Vous n'êtes pas un chrétien juste le dimanche matin, mercredi soir, mais lundi matin, quand le cadran sonne et vous êtes fatigué et vous n'avez pas le goût de vous réveiller pour aller travailler, mais vous n'avez pas le choix, c'est là où il faut penser, je suis ambassadeur de Jésus-Christ, aujourd'hui aussi. Amen? Quelles sont les attitudes d'un ambassadeur? Regardons Romains chapitre 1. Et on va lire à partir de verset 14. Romains 1, 14. Juste quelques pensées, trois choses aujourd'hui, seulement trois choses. Tout le monde va sortir d'ici aujourd'hui en se rappelant de ces trois choses. Et ma prière, c'est que pour le restant de votre vie, vous allez vous rappeler de ces trois choses. Tout le monde dit trois choses. Trois attitudes. Trois attitudes qui vont, dans le fond, changer votre vie et changer notre ville, notre province, la francophonie et le monde entier. Ça vous intéresse de voir davantage de miracles, davantage de personnes sauvées, davantage de personnes guéries? Vous voulez voir cette église remplie, pleine à craquer? Vous voulez voir les églises implantées partout dans cette province? Pas juste par nous, mais vous savez, il y a beaucoup d'autres bonnes églises qui sont à l'œuvre, même dans notre ville. Et on collabore, on n'est pas en compétition avec les autres, on est en collaboration. Amen. Mais en Romains chapitre 1, verset 14, l'apôtre Paul, est-ce que vous êtes d'accord que si on avait besoin d'un exemple, un modèle à suivre pour être un bon ambassadeur de Jésus, est-ce que vous êtes d'accord que l'apôtre Paul, c'est un bon exemple? Donc, lisons qu'est-ce qu'il a dit. Et c'est pas moi qui parle, c'est même pas l'apôtre Paul qui parle, c'est le Saint-Esprit qui parle à travers lui, et ses paroles sont éternelles et c'est bon pour nous aujourd'hui. Paul a dit, on peut dire le Saint-Esprit a dit à travers l'apôtre Paul, « Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. » Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai point honte de l'Évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec. Trois choses que Paul a dit. Premièrement, il a dit « Je me dois ». Tout le monde dit « Je me dois ». Deuxième chose qu'il a dit « J'ai le vif désir ». Troisième chose « Je n'ai pas honte ». On va le dire encore « Je me dois ». J'ai le vif désir, je n'ai pas honte. Qu'est-ce qu'il voulait dire quand il disait « Je me dois aux Grecs et aux barbares » Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Moi, j'ai bien aimé qu'est-ce que la parole vivante, la façon que c'est traduit. Il a dit ici, dans vos notes, je l'ai marqué, « Tous les hommes ont droit à mon message. » Écoutez ceci, il y a presque 6 milliards d'habitants sur la planète Terre aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a plus de personnes en vie que jamais dans l'histoire de l'humanité. On peut prendre toutes les autres générations précédentes et les additionner ensemble et on aurait quand même moins du monde qu'on a aujourd'hui, les gens qui sont en vie aujourd'hui. Est-ce que vous vous rendez compte? Aujourd'hui, 6 milliards. Savez-vous quoi? La moitié n'ont jamais entendu le nom de Jésus, le message du salut. La moitié. La moitié. C'est quelque chose, hein? Mais ici, on voit que tous les hommes ont droit à mon message. Savez-vous que ceux qui n'ont pas encore entendu, ils ont le droit d'entendre. Je m'en souviens d'une histoire vraie, d'un missionnaire qui est allé au Tibet, proche de la Chine. Il est allé là, dans un village, et il témoignait à un monsieur qui était là avec son âne, et il parlait de Jésus, il ne savait pas du tout de qui il parlait. Jésus, qui ça? Il me dit, comment ça, une personne ne peut pas savoir? Laissez-moi vous dire une chose, juste pour reculer, ouvre une parenthèse. Il y a 2 ans, j'étais ici, vous savez quand ils ont ouvert World Best ici, ça vient de la Chine, il y avait plusieurs Chinois que j'ai rencontrés. Et au moins 2 ou 3 fois, j'ai parlé avec les Chinois, et eux autres, ils parlaient en anglais, je parlais en anglais, et je commençais à parler de Jésus. Je dis, est-ce que quelqu'un vous a déjà parlé de Jésus? Non. Ça? Je commençais à parler de Dieu, de Jésus, et eux autres, laissez-moi vous dire, ici à Drummondville, au moins deux de ces hommes n'ont jamais... C'est comme, désolé, mais je ne sais pas de qui vous parlez. Quelque chose, hein? Donc, mais là, revenu à ce missionnaire au Tibet, il est là au Tibet et il rencontre un monsieur avec son âne qui se promène et puis commence à parler et d'annoncer l'Évangile. Il donne le message. Tout le monde a droit à ce message. Et il parle à lui et il explique comment Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, que son Fils est mort sur la croix, que son Fils est devenu le substitut pour nos péchés, que Jésus était cloué à la croix pour nous pardonner, que Jésus était enterré le troisième jour ressuscité, que Jésus est maintenant à la droite du Père et que tous ceux qui invoquent le nom de Jésus seront sauvés. Et le monsieur, le Chinois, je pense que c'était au Tibet, mais il a été tellement touché qu'il a dit, ah oui, moi aussi je veux connaître ce Jésus. Donc le missionnaire a prié avec lui, l'homme était sauvé, son visage était changé, il était dans la joie. Et puis, il a demandé au missionnaire, « Ah oui, mais c'est quand que Jésus est venu? Ça fait combien de temps maintenant? » Il a dit, « Oh, mais là, on recule presque 2000 ans. » Quoi? 2000 ans? Et son visage a changé. Un visage de joie est devenu un visage d'étonnement. 2000 ans, comment? Et puis, son visage est devenu un visage de colère même. Comment ça? Ça a pris 2000 ans avant que quelqu'un vienne nous donner le message. C'est-à-dire que si c'est vrai, qu'est-ce que tu dis que mon père, il est mort sans connaître Jésus? Où est-ce qu'il est aujourd'hui? C'est pas une farce, hein? C'est-à-dire que mon grand-père, mon arrière-grand-père, ils sont tous morts sans connaître Jésus. 2000 ans! C'est quoi le problème? Et il s'est fâché avec le missionnaire. Vraie histoire. Tout le monde a droit à ce message. Imagine, on peut prendre l'exemple aujourd'hui de quelqu'un qui est atteint par le sida. Il y a des millions de personnes atteintes par le sida aujourd'hui. Mais imagine si quelqu'un, un médecin, découvre un remède qui marche à 100% sans effet secondaire, ça marche une seule dose et tu es guéri pour la vie. Il donne ça à un monsieur atteint par le sida. Il dit, bon, voici comment ça va fonctionner. Je te donne le médicament, mais c'est à toi d'aller trouver quelqu'un d'autre avec le sida. Et tu peux lui donner une dose et puis ça va continuer de même. Imagine si le gars dit, ben, enfin, c'est un remède. Il prend la piqûre, il est guéri. Il dit, je suis tellement heureux d'être guéri. Il met le syringe dans sa poche. Il met le médicament dans une armoire dans la cuisine. Et puis, il s'assoit pour regarder la télévision. Tout le monde qui est atteint du sida a droit à ce médicament. Ça serait injuste de le garder chez lui. Vous êtes d'accord? Je pense qu'en quelque part, le message, c'est un peu sérieux ce matin. Mais le message est tellement important. Tout le monde a droit à entendre la bonne nouvelle de Jésus. Je suis content d'être sauvé de mes péchés. Je sais que je ne vais pas passer l'éternité à l'enfer. Je sais que je serai au ciel. J'ai aucune doute. Et vous pouvez avoir cette même certitude. Mais savez-vous quoi? Combien de fois on est porté à oublier que ceux qui nous entourent ont droit à ce même message? Est-ce que tout le monde va accepter, recevoir et devenir chrétien? Il y a beaucoup qui vont rejeter le Seigneur. Et mais des fois, on fait l'erreur, on pense que personne ne veut savoir. Est-ce que tu voulais savoir? Est-ce que vous êtes mieux qu'eux? En quelque part, il faut changer notre façon de penser. Je suis ambassadeur de Christ et je me dois. J'ai une dette à payer envers la... J'ai reçu gratuitement, il faut que je donne gratuitement. Amen? Même il y a un verset qui est en Ézéchiel 3, 17 qui dit, « Fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. » Quand je dirai aux méchants, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité. Et qu'est-ce que la Bible dit? Et je te remanderai son sang. Vous êtes d'accord que ça c'est assez heavy, on peut dire? C'est sobre, mais c'est la vérité. On peut pas dire, hey, gloire à Dieu, je suis sauvé, mais tu sais, je suis un peu trop gêné d'en parler. Ça, c'est dangereux pour nous et c'est dangereux pour eux. Alors, n'oubliez pas, je veux vous soulager un peu, hein. Plus on va dans ce message, plus vous allez voir que ce n'est pas un message de condamnation, de culpabilité ou quoi que ce soit, mais c'est un message, c'est quand même la vérité. La vérité, c'est que l'Église doit se réveiller. Ça ne devrait pas prendre un autre 2000 ans avant d'annoncer ce message aux nations. Surtout aujourd'hui avec les moyens de transport, les moyens de technologie, tout ce que nous avons à notre disposition. Moi, aujourd'hui, même aujourd'hui, qu'est-ce que je dis? Mes paroles.
Tu peux dire bonjour?
Bonjour.
Bonjour, Joanne vient de dire bonjour. Et grâce à l'aide de Serge ici et la technologie, aujourd'hui, cet après-midi, il va mettre le message qu'on fait maintenant sur notre site web. OK? Et si les gens veulent, et souvent, on reçoit assez régulièrement des personnes en Afrique, Île de la Réunion, en France, en Ottawa, d'autres villes ici au Québec, des personnes qui même écrivent, disent, hey, on écoute tes messages sur Internet, on les écoute régulièrement. Donc, Joanne, qu'est-ce que tu viens de dire? Va être entendu dans quelques heures, ça peut être entendu en Afrique.
J'aurais dû dire « Soyez bénis » au lieu de « Bonjour ».
Vois-tu? Incroyable quand on pense à ça. Quelqu'un en Chine, si en chinois voulait, et si en chinois avait accès, et si le français n'était pas tout chinois pour les Chinois, en chinois pourrait écouter Joanne aujourd'hui, cet après-midi. On n'a plus d'excuses. Amen. La moisson est grande, Jésus a dit, mais les ouvriers sont peu. Priez le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans la moisson. Amen. Alléluia. L'apôtre Paul a compris cela. Il a dit, je me dois. Tout le monde dit, je me dois. Hein? Acte 20, 26 dans vos notes, Paul disait, c'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. C'est-à-dire que si on cache l'Évangile à ceux qui ont droit à ce message, on va être trouvés coupables de leur sang. Vous êtes d'accord? Alléluia. La parole vivante de ce même verset dit, c'est pourquoi je vous le déclare solennellement. Aujourd'hui, je suis dégagé de toute responsabilité à votre égard. Si l'un de vous devait se perdre, ce ne serait pas de ma faute. Est-ce que vous écoutez ceci? Car je vous ai vraiment annoncé tout le plan de Dieu sans rien passer sous silence. C'est fort, hein? Est-ce que si je pense à mes voisins aujourd'hui, si mes voisins se perdraient aujourd'hui, est-ce que je serais capable de dire, mais vois-tu, s'ils sont perdus, c'est de leur faute, c'est pas de ma faute parce que je leur ai annoncé l'Évangile. Je peux vous dire que la plupart de mes voisins, oui, mais quand je pense à ça, il y a un couple d'autres, tout le monde sait que je suis chrétien, j'ai partagé un peu avec tout le monde, mais je ne suis pas allé jusqu'au bout avec quelques autres. Je devrais faire plus. Je ne suis pas sûr que je suis complètement pur, comme Paul a dit. Je suis pur du sang de vous tous parce que j'ai rien caché, j'ai annoncé tout le conseil de Dieu. Amen. Tout le monde dit, je me dois. Posez-vous la question. Est-ce qu'il y a des gens dans votre entourage qui ont droit à ce que vous avez, mais qui n'ont pas encore, eux, l'occasion de l'entendre? C'est-à-dire que dans notre entourage, ici, on devrait laisser notre lumière, lui. Je ne parle pas d'aller cogner les portes. Si le Seigneur met ça dans votre cœur, fais-le. Je l'ai déjà fait chez moi. Tenez-moi une fois, je n'étais pas organisé, c'était juste dans mon quartier. Je me suis dit, tu sais, ces personnes ont besoin de connaître le Seigneur. Donc, on s'est promené, on avait 17 ans, on s'est promené et dit, bon, tu sais, j'avais juste à cœur de venir te dire bonjour et je veux juste que tu saches que Jésus t'aime. Il a vraiment changé ma vie et je veux que tu saches qu'il est vivant et il t'aime. On a fait le tour de tout notre quartier, nous deux petits amoureux. On n'avait pas d'agenda, on ne voulait pas que les gens viennent à notre église, c'est pas notre but. Hein? C'était pas une chose de secte, c'était juste, je veux vous dire, vous avez droit au message que Dieu vous aime. Amen? Tout le monde dit, je me dois! Alléluia! Laisse-moi vous dire, il faut que je crois que le Seigneur veut que je partage cette histoire. Vous l'avez peut-être pas déjà entendu. Mais quand ce verset est devenu réalité dans ma vie, c'est quand on était à l'école biblique, Tanya et moi, pour gagner notre pain, on faisait le ménage dans les maisons, on travaillait ensemble. Je vendais les chaussures la première année. comme Gabriel fait là. Mais je pense qu'il est un meilleur vendeur que moi j'étais. Il est bon, j'étais pas si bon, mais on a changé de métier, je commençais les toilettes, là j'étais bon. Laisse-moi te dire. J'en ai lavé pas mal de toilettes cette année-là. Et on travaillait, c'est des personnes, des grosses maisons, des fois avec 6-7 toilettes dans une maison, et c'est comme, waouh, c'est quelque chose, hein? Mais on est arrivé dans une maison, et le monsieur qui habitait là venait de l'Australie, c'était un joueur de tennis professionnel. Et puis, on ne l'a jamais rencontré. On laissait toujours une note, disant, bon, on était là, est-ce que tout est correct, avez-vous besoin d'autre chose, da. On avait une clé, on entrait chez lui, on laissait les notes, on ne s'est jamais vu pendant 6 mois de temps. 6e mois, et c'est achevé, puis on arrive un jour, et là, il est là, devant moi. Il commence à me raconter que, ah oui, moi, je pars dans 2 semaines, je pense, ou je pars la semaine prochaine, ou dans 2 semaines, je ne m'en souviens plus. Non, c'était dans une semaine, tu as raison. Pour l'Australie, parce que moi, je suis atteint du cancer. Puis, je vais aller chez moi voir mes parents, puis je vais me faire opérer, et puis je reviens. Ça va bien aller. Donc, tout de suite, sur le coup, j'avais l'impression dans mon cœur que j'avais besoin de lui parler de Jésus. Mais j'ai hésité. J'ai laissé ma tête résonner, et puis je dis, ben là, il va peut-être être offensé. Je sais ce que je vais faire. Je vais faire le ménage, je vais faire ma job, et par la suite, juste avant de partir, je vais revenir et je vais lui parler de Jésus. Donc, on a travaillé un bon 2 heures de temps, à peu près, et puis, entre-temps, il avait une amie, une femme qui est arrivée à la maison, ils étaient dans la cuisine, et ils faisaient des blagues, etc., les choses un peu vulgaires en plus, et c'est comme, je me suis rendu compte, c'est plus vraiment un moment propice pour lui parler. C'est bon, peut-être la prochaine fois. Donc, tout ce que je dis, c'est que Dieu vous bénisse et on est parti. On est allé 2 semaines après, parce qu'à chaque 2 semaines, et on reçoit un appel, le téléphone sonne, quelqu'un dit « Bonjour, ici c'est telle personne, je suis l'ami de monsieur tel, et je voulais juste que vous sachiez que le monsieur tel, il est rentré en Australie, et 1 semaine après, il est décédé. » Laissez-moi vous dire, est-ce que c'était par hasard que pendant 6 mois de temps, j'ai jamais vu son visage, mais quelques jours avant sa mort, j'ai eu l'occasion de le voir. J'étais face à face avec lui. C'est lui qui a ouvert la porte, pleinement ouverte devant moi, mais moi, je n'ai pas pris l'occasion. Il avait droit à mon message. Ça fait fort. J'ai braillé, je demandais pardon, bien entendu. Mais non, c'était Seigneur, j'espère que quelqu'un d'autre était plus fidèle que moi. J'espère que quelqu'un, peut-être dans l'avion, j'espère que quelqu'un d'autre lui a parlé. Et j'espère que je vais le rencontrer au ciel. Mais je ne sais pas. Mais voici, à partir de cette journée-là, je me suis dit, Seigneur, dans la mesure du possible, avec ton aide, par ta grâce, je ne vais jamais plus laisser une occasion me dépasser comme ça. Je m'excuse, je me dois. Amen? Tout le monde dit, je me dois. Alléluia! Qu'est-ce qu'on a à perdre? Des fois, on a dit, ah, mais on va perdre notre réputation, on va perdre ceci, c'est gênant. Mais qu'est-ce qu'eux autres vont perdre? Peut-être le ciel. Amen? Alléluia! Mais ça devient plus positif. Mais ça, c'est positif, mais c'est sobre, je sais, j'avoue que c'est sobre. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir. Tout le monde dit, j'ai un vif désir. On voit l'attitude d'un ambassadeur. C'est pas juste, j'ai une dette à payer. Tout le monde a droit à mon message. J'ai pas le goût, je veux pas, mais je vais le faire quand même. Non, je me dois, mais j'ai le vif désir, je veux le faire. J'ai hâte de prêcher l'Évangile. J'ai hâte de voir les personnes venir au Seigneur. C'est ça qui est mon bonheur. Laissez-moi vous dire ceci, juste ouvre parenthèse. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui disent, mais ouais, mais mon don, c'est pas l'évangélisation. Ça, c'est le don à d'autres personnes. Pour moi, c'est pas l'évangélisation. Et ça, c'est vrai. C'est pas tout le monde qui est appelé à être évangéliste dans l'office d'évangéliste, mais tout le monde est appelé à évangéliser. Pas de la même façon non plus. Quelques-uns vont évangéliser, beaucoup avec la bouche et en faisant des choses, mais des fois en approche directe, mais d'autres personnes, ils vont laisser la lumière luire. Amen. C'est important qu'est-ce qu'on dit ce matin. Parce que moi, je crois que notre temps ici sur la terre, le temps qui nous reste est quand même limité. Est-ce que vous êtes d'accord? On s'approche de la fin des temps et qu'est-ce que Dieu veut? C'est pas juste que les pasteurs, les évangélistes amènent les âmes. Dieu veut que toute sa famille s'occupe de la moisson. Vous vous rappelez quand on a fait l'illustration, je suis allé chercher une personne, mais puis j'avais une équipe de trois qui sont allés chercher trois personnes. Moi, je suis allé chercher une deuxième personne, on est rendu à trois, mais tous les six d'autres sont allés chercher six d'autres. Et on voyait que la multiplication était en train de montrer clairement qu'une personne qui fait du ministère, on peut additionner. Mais si nous faisons du ministère, nous allons multiplier. Amen? Je me dois et j'ai le vif désir. Tout le monde dit, j'ai le vif désir. Par la grâce de Dieu, vous n'allez jamais oublier que ces choses. Je me dois, j'ai le vif désir et je n'ai pas honte. Regardons, Jésus l'a dit en Jean 4, 34. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Amen. Ma nourriture. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment manger ici? Ce n'est pas la question à poser à midi moins 20. Hein? Mais avez-vous plus faim pour votre estomac ou pour faire la volonté de Dieu? Des fois, peut-être vous êtes là en train de dire, « Pasteur, dépêchez-vous. Franchement. » Là, là, d'habitude, on aime viser 11h et dîner, mais ça n'arrive pas souvent. C'est vrai, ça n'arrive pas souvent, j'avoue, hein? D'habitude, c'est plutôt midi. Mais, écoutez, hein, c'est pas comme dans l'église primitive où ils prêchaient jusqu'à minuit et puis ils perdent un membre de la groupe de jeunes qui tombe de fenêtre, il est mort, ils sont obligés de le ressusciter des morts et puis ils continuent jusqu'à l'aube du matin. On peut essayer, hein, mais on n'a pas les fenêtres assez hautes. Donc, même pas midi, pas minuit, donc restez ici, hein, avec moi pour une minute ou deux. Je me dois. J'ai le vif désir. Moi, je parle à moi-même aujourd'hui. Il y a des choses que le Seigneur veut ranimer dans mon cœur aussi. Parce que, vous savez, quand j'ai reçu mon appel pour le ministère, quand j'étais baptisé du Saint-Esprit, moi, j'avais un feu pour les âmes. J'ai encore un feu pour les âmes. Laissez-moi vous dire que j'avais un feu pour les âmes. Et pendant 5 ans de temps, même après l'école biblique, pendant 5 ans, me promener avec Tanya dans des églises partout aux États-Unis, en Europe, même au Mexique, et on faisait de l'évangélisation, mais on enseignait dans les églises, on faisait des séminaires sur l'évangélisation personnelle comme style de vie, comme mode de vie. Savez-vous, j'ai jamais fait ça, même ici, dans 10 ans, pour vous. C'est comme, je m'occupe tellement des enfants de Dieu, OK, le travail, pastoral, ça c'est bon, les soins pastoraux, etc., c'est important. Mais laissez-moi vous dire, en quelque part, le Seigneur veut, comme Paul a dit à Timothée qui était pasteur, fais l'œuvre d'un évangéliste. Et une œuvre de l'évangéliste que moi, en tant que pasteur, que j'ai besoin de faire. Et mon œuvre d'évangéliste, c'est de vous équiper d'aller chercher les âmes. Amen? Et le Seigneur, c'est comme, il y a des personnes, aujourd'hui, je les rencontre des fois, 10 ans plus tard, partout, Tanya est témoin que partout on va dans les églises où on était il y a 10 ans, 11 ans, 12 ans, 14 ans, et ils disent, ils peuvent dire, sans qu'on dise un mot, je me dois, j'ai un vif désir et je n'ai pas honte de l'Évangile. Ça les a marqués. En quelque part, je me suis dit, c'est pas juste, c'est pas correct, j'ai pas fait mon devoir comme il faut. Si nous, la vie comblée, je sais pas si c'est vraiment, comment je dirais ça, imprégné dans votre cœur comme il faut. Cette passion pour les âmes. Je ne veux pas juste que vous soyez capable de dire, je me dois, j'ai le vif désir et j'ai pas honte. Je veux que vous viviez cela. Je me dois. Ils ont droit à mon message. Et je veux le partager. J'ai le vif désir. J'ai hâte. C'est pourquoi j'ai le vif désir de prêcher à vous qui êtes à Rome aussi. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Je préfère amener les âmes au Seigneur que de manger. C'est ça que Dieu veut. Amen. Alléluia. C'est ça que Jésus a dit. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux Tout le monde dit, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Voulez-vous savoir une clé? Peut-être vous dites, mais moi, je peux vous dire honnêtement, je n'ai pas cette passion, je n'ai pas ce vif désir. Dis ça par la foi, j'ai le vif désir. Par la foi, vous commencez de même. Mais voulez-vous savoir un truc? Jésus l'a donné. Levez les yeux. Trop souvent, on vit comme ça, on se regarde, on regarde notre ombrie. Mais Jésus a dit, levez les yeux. Ça nous ferait du bien juste de temps en temps de dire, OK, j'arrête tout ce que je fais, je sais que je suis occupé, mais j'arrête. Regardons, il y a un monsieur qui est en train de travailler là. Juste, il a quoi donc? 100 pieds d'ici. Tu le vois? Il est juste là, hein? En train de tailler les haies de cèdre là. Est-ce qu'il connaît Jésus? Ça, c'est une bonne question à se poser. Arrête de dire, Seigneur, est-ce que cet homme-là, il a droit à notre message, mais est-ce qu'il a entendu? Et s'il mourait aujourd'hui, où est-ce qu'il passerait l'éternité? Pour vrai, hein? Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui peut lui arriver aujourd'hui. Si tu fais ça de temps en temps, il y a une passion qui va se lever dans votre cœur. On devrait prier pour lui. On va prier pour lui maintenant. Père, au nom de Jésus, on prie pour cet homme. On ne le connaît pas. Et on prie que tu ouvres les yeux de son cœur pour qu'il puisse voir la lumière. Seigneur, envoie les ouvriers pour lui témoigner. Seigneur, et si tu veux que quelqu'un d'entre nous lui parle, Seigneur, on est à l'écoute et on est à ta disposition, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Vous savez, je sais que en levant les yeux, en regardant les champs, en regardant votre entourage, en vous posant la question, où est-ce que cet homme, où est-ce que cette femme, où est-ce que cet enfant va passer l'éternité? La compassion de Dieu, l'amour de Dieu va se lever dans votre cœur. Amen. Je ne me suis pas dit qu'on devrait tous courir maintenant vers lui et lui faire peur. Là, c'est le temps de prier, Seigneur, ça prend la sagesse. Parce que des fois, il y a certaines personnes, la meilleure façon de faire, c'est de créer une amitié avec la personne. Il faut que la personne nous fasse confiance avant qu'il va être capable de recevoir notre message. Amen. Mais d'autres personnes, le Seigneur va vous dire, va lui parler directement. C'est là où il faut être rempli de l'Esprit et conduit par l'Esprit. Parce que chaque homme est différent, chaque âme est différent, et notre approche vers un va être différente de notre approche envers un autre. Amen. Alors, c'est pourquoi on a besoin de tous les membres du corps. Il y a des gens qui sont plus extravertis, qui aiment ça quand le Seigneur dit, parle à un tel, et ils sont prêts à parler à les étrangers. Il y a d'autres personnes qui sont un peu plus introverties, réservées. Eux autres vont être peut-être plus à l'aise à faire un gâteau et l'amener chez le voisin, commencer à parler et tranquillement laisser les portes s'ouvrir. Amen. Donc, ne pensez pas que je suis en train de dire qu'on a tous besoin d'aller cogner les portes. Pas du tout. On a tous besoin de se laisser guider par l'Esprit. Amen. Alléluia. Je me dois. J'ai le vif désir et finalement, je n'ai pas honte. Tout le monde dit, je n'ai pas honte. Alléluia. Je n'ai pas honte de quoi, Paul a dit? Je n'ai pas honte de l'Évangile. Pourquoi? Parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Paul a dit, je n'ai pas honte de l'Évangile. L'Évangile et la religion sont deux choses différentes. Moi, j'aurais honte de la religion. Surtout la religion, comme on entend tellement souvent, comment tu sais que Dieu est... Des fois, on voit des méchantes choses qui arrivent, mais ça doit être Dieu qui est en train de nous apprendre des choses. Ou les personnes qui disent, mais autrefois, le Seigneur faisait des miracles, mais aujourd'hui, il ne fait plus de miracles. Autrefois, le Seigneur guérissait, mais aujourd'hui, il ne guérit plus. J'aurais honte d'annoncer ça. Mais il a dit, j'ai pas honte de l'Évangile, car c'est la puissance de Dieu. Le mot « puissance » dans le grec, c'est « dynamis », ce qui nous fait penser à « dynamite ». C'est le dynamite de Dieu, pourquoi? Pour le salut. Le mot « salut », c'est « sozo ». C'est dans vos notes, vous pouvez écrire, ça signifie quatre choses. Salut, délivrance, guérison et raison saine. Salut, délivrance, guérison et raison saine. Moi, je n'ai pas honte de dire à quelqu'un, tu sais quoi? Je connais quelqu'un qui s'appelle Jésus, qui est vivant aujourd'hui. Tu es malade, tu peux être guéri. Hein? Tu es désespéré, tu as des problèmes émotionnels, tu as des problèmes avec ta façon de penser, tu as perdu ta paix, tu peux avoir la raison saine, tu peux avoir la guérison, tu peux être préservé du mal, tu peux être sauvé de vos péchés. Je connais quelqu'un, il s'appelle Jésus, il est vivant aujourd'hui, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous savez, évangéliser, c'est pas parler et de raconter une vieille histoire. Vous savez, il y avait une fois un homme qui s'appelle Jésus qui est venu du ciel. Il est mort sur la croix et maintenant il est ressuscité. Non, notre rôle comme ambassadeur, c'est d'introduire ces personnes à Jésus le vivant, le Christ vivant, et de les laisser expérimenter eux-mêmes cette puissance. Combien de vous avez été guéris physiquement par le Seigneur? Levez la main. Regardez. Moi, je dirais 95%. Et on ne parle pas des petits bobos non plus. Des fois, des personnes qui étaient sur le point de mourir ici, ils ne seraient pas là aujourd'hui. Sauf que l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut. Ça, c'est l'Évangile qu'on prêche. Et je n'ai pas honte de ça. Savez-vous, Jésus a dit à Marc 8, 38, que si vous avez honte de moi, c'est dans vos notes. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Moi, je ne veux pas que le Seigneur ait honte de moi. Et vous? Romains 1, 16, hallelujah, dans la Bible de sa mère, dit « Car je suis fier de l'Évangile ». Est-ce que vous êtes fiers de l'Évangile? On a tous une tendance. C'est normal et naturel d'avoir une tendance devant les non-croyants, d'être des fois timide. Ça, c'est naturel. Est-ce que vous êtes d'accord? Mais quand on est rempli de l'Esprit et rempli d'amour, la timidité est partie. La timidité est remplacée par une hardiesse. Une hardiesse qui dit, je m'en fiche de qu'est-ce qu'ils pensent de moi. Qu'est-ce qui est plus important, c'est que où est-ce qu'ils vont passer l'éternité. Amen? Donc, dans le fond, c'est quoi la pire ennemie de l'évangélisation? C'est quoi qui est vraiment la racine de la honte? C'est la peur et la crainte. Vous êtes d'accord? On a peur de qu'est-ce que les hommes vont penser. On a peur de qu'est-ce que les hommes vont dire. On a peur de qu'est-ce qui peut nous arriver si on annonce l'Évangile. Mais ces craintes, ces peurs, avez-vous remarqué que ces choses sont toujours centrées sur soi-même? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Qu'est-ce qui va arriver à moi? Ou qu'est-ce que je vais dire? Je ne sais pas quoi dire. Je m'en fiche de qu'est-ce qu'ils pensent, mais j'ai peur de ne pas dire la bonne chose. Hein? Est-ce qu'il y a des personnes qui me suivent ce matin? Des fois, c'est ça. C'est moi, dans le fond, je n'ai pas honte de Jésus, mais je ne veux pas faire un gap. Je ne veux pas l'éloigner plus du Seigneur en disant des mauvaises affaires. Il y a des gens qui ont pensé de même. Ça, c'est quand même une crainte, une peur. Amen. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? C'est de se laisser animer, guider par l'amour de Dieu. La crainte, la peur, c'est à la racine de la honte. C'est-à-dire que l'amour est à la racine de l'hardiesse. Amen. L'assurance et l'hardiesse viennent d'un amour authentique pour Dieu et un amour authentique pour notre entourage. Je vais le dire encore. L'hardiesse et l'assurance dans l'évangélisation viennent d'un amour authentique pour Dieu et un amour authentique pour notre entourage. Quand on aime Dieu, plus qu'on aime notre réputation, et quand on aime notre prochain, qu'est-ce que la Bible dit? Il n'y a pas de crainte dans l'amour. L'amour parfait exclut la crainte. La crainte est liée à l'attente d'un châtiment. Et ainsi, celui qui craint ne connaît pas l'amour dans sa perfection. L'amour peut vous faire faire des choses que vous n'aurez jamais pu croire que c'était possible. Moi, j'ai déjà lutté avec la peur et la crainte beaucoup de ma vie. J'ai eu des périodes, même à l'école biblique, où j'ai passé des périodes, j'ai fait des rêves, des personnes qui tuaient des gens, et ça arrivait. Je voyais des choses dans mes rêves, et ça arrivait le lendemain. Et puis le diable m'a dit, tu es le prochain. Et je te dis, hein, l'ennemi, il sait quoi faire pour vous faire peur. J'étais aussi craintif que je barrais la porte. J'ai presque couru à chaque soir dans mon appartement, barrais la porte. Je me suis réveillé la nuit, trempé de sueur, parce que j'avais peur. Mais savez-vous, plus je laissais l'amour de Dieu remplir mon cœur, plus la peur est disparue. J'ai plus peur de quoi que ce soit. Je m'en souviens, on faisait souvent du ministère à Détroit. C'était une ville qui était assez tough. dans quelques quartiers assez proches avec des personnes. Il y avait une fois, on a aidé à commencer un groupe de jeunes dans une église. Plusieurs d'entre vous sont allés. Mais il y avait un jeune homme qui a accepté le Seigneur, deux, trois jeunes hommes qui ont accepté le Seigneur. Ils avaient besoin d'aller pour aller chez eux. C'était déjà après le coucher du soleil. À l'époque, Détroit, c'était le capital des États-Unis pour les meurtres aux États-Unis. C'était la place reconnue pour les meurtres. On dit, on va au Détroit, on dit, oh, fais attention, barre les portes de ta porte, parce que souvent, c'est dangereux là-bas. Mais là, je suis allé, j'ai amené ce garçon au Seigneur, il a dit, j'ai besoin d'un aide. Je l'ai ramené chez lui, c'était tout noir dans le quartier, et là, c'est moi, tout noir parce que le soleil était couché, et tout noir aussi, parce que dans le fond, j'étais la seule personne de ma race aussi, dans le quartier. OK? Et ça, c'est pas un problème, sauf que, c'est-à-dire que tout le monde, vous voyez, tout le monde regardait. Dans ces quartiers-là, c'est pas comme ici, où c'est pas un problème, mais souvent, il y avait beaucoup de la haine entre eux. Ça, c'est de valeur parce que c'est stupide, n'est-ce pas? On est tous des enfants de Dieu. Mais là, j'arrive et je dis, bon, on est en retard, il faut que je dise à la maman, qu'est-ce qui se passe? Donc, je vais aller cogner la porte pour expliquer à sa mère où il était pour qu'il n'ait pas de trouble parce qu'il arrive en retard. Je vais lui dire, bon, qu'il était dans une église, etc. Là, je cogne la porte et puis je pense à parler à la mère de ce jeune homme. Et puis, je commence à témoigner, parler du plan du salut, écouter. Et puis, elle disait, moi, j'ai tellement de problèmes, et ça va mal. Et je dis, mais si tu veux, je peux prier pour vous. Elle dit, je pense que ça serait bien. Et tout d'un coup, j'entends cette voix de l'intérieur de la maison. La maison était noire, sauf qu'il y avait quelques petites lumières clignotant sur une image d'une femme nue sur le mur. Je te dis, c'était ce genre de... C'était tout noir, je ne voyais rien dans la maison. J'entendais la voix de cette madame à qui je parlais. Je dis, je vais prier pour vous. Et tout d'un coup, j'entends cette voix. Oui, tu peux prier pour cette maison. Viens-t'en dans la maison. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me sauve? Écoute, ça, c'est le même gars qui courait de son hôtel, qui barrait les portes et qui était trempé de sueur parce que j'avais peur d'être tué. Et là, je suis là devant la porte, et savez-vous quoi? Je ne dirais pas que c'est toujours la chose la plus sage à faire, mais je savais que c'était Dieu. Donc, j'ai entendu cette voix, « Hey, venez dans la maison! » Et j'avais la paix de Dieu. Et j'étais tellement ému de compassion pour cette famille, c'est comme, « OK, j'y vais. » J'avais aucune crainte. Ma tête, au début, avait... « On se sauve! Bye! » Oui, viens-t'en dans la maison, puis ils vont te chercher pendant 2 semaines et peut-être ils vont te trouver, hein? C'est ça, la tête disait au début, dans un clin d'œil. Si c'est dans un clin d'œil, tu peux avoir les 1000 pensées, hein? Mais je dis non, c'est Dieu, il veut que je sois là. Je suis entré, j'ai prié avec, c'était un gros monsieur, costaud, laisse-moi te dire, costaud, les muscles, c'était un gars qui faisait de la musculation, qui avait des cicatrices partout, parce qu'il a été déjà poignardé, on dit, 26 fois. Il a déjà eu, je pense, s'est fait tirer les balles 2 ou 3 fois. Donc, et là, je suis devant lui, il n'avait même pas sa chemise. Sa chemise, il est là.
Oui, 20 ans, priez pour nous.
Hey. J'avais à peine 20 ans à l'époque. Hein? À peine 20 ans. Qu'est-ce que je fais? Mais j'ai vu la main de Dieu. Et lui, il a baissé sa tête. Fait une prière, il a accepté le Seigneur et sa femme aussi. Son fils venait d'être revenu de nouveau. Savez-vous quoi? Ça, c'était, je pense, un samedi soir, dimanche matin. Il arrive à l'église, il a mis un costume avec une cravate, même. Il arrive, il est tout heureux. Il arrive à l'église. Pourquoi je dis ça? C'est parce que le même garçon qui était peureux, craintif, qui voulait rien savoir, il se promenait, on faisait des mois du ministère de temps en temps à Détroit. Moi, je me prenais souvent dans les rues de Détroit, faisais du ministère, témoignais aux gens. J'avais aucune crainte, j'avais une grâce pour le faire. Amen. J'ai pas honte. Tout le monde dit, je me dois. J'ai le vif désir. Et je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est l'amour qui va bannir la honte dans votre vie. On va prier ce matin. Si Daniel peut venir. On a 3 minutes avant midi. Alléluia. Je ne m'excuse pas pour ça parce que je crois que j'ai fait ce que le Seigneur veut. Amen. Vous savez, quand je grandissais dans mon église,
Bon, souvent, on terminait à 12h30, 1h, 1h30 des fois. Hein? Tout le monde était content aussi. On est gâtés, hein? Alléluia. Alléluia, on va prier. Moi, je suis content d'être sauvé. Mais je me dois. Tout le monde a droit à mon message. Tout le monde a droit à notre message. Nous, nous devons. Et on devrait être capable de dire, nous avons le vif désir. Et nous n'avons pas honte de l'Évangile. Savez-vous que vous n'êtes pas capable d'arriver à dire ces choses et vivre ces choses sans avoir l'aide du Saint-Esprit? C'est la puissance d'en haut qui va vous donner le courage nécessaire. Je pense à l'apôtre Pierre. Il a dit, « Oh Seigneur, je suis prêt à mourir pour toi! » Jésus a dit, « Non, non, je te dis, tu vas me renier 3 fois. »« Oh non, non! » Mais oui, 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 3 fois. Je ne le connais pas. Je te le jure, je ne l'ai jamais connu. 3 fois, renier le Seigneur. Mais dans une chambre haute, le jour de Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Il s'est fait remplir de l'Esprit. Il s'est exprimé en autre langue. Et la même personne l'est changé, transformé. Le Pierre qui a renié Jésus était disparu. Et on voyait Pierre, revêtu de force et de puissance, qui prêchait et 3 000 âmes sont venues au Seigneur. 3 000 âmes dans une seule journée. C'est quoi qui a fait la différence? La puissance de l'Esprit. Donc ce matin, on va prier. Et j'ai 2 ou 3 invitations à donner. J'aimerais que tout le monde ferme les yeux, s'il vous plaît. On va rester sensible à l'Esprit Saint. De un, je crois que le Seigneur veut faire un travail dans notre cœur, individuellement, mais aussi collectivement en tant qu'Église. Il veut que ces attitudes d'un ambassadeur soient réelles et authentiques. Il veut qu'on saisisse ces 3 choses. Je me dois, j'ai le vif désir, je n'ai pas honte. Je me dois, j'ai le vif désir et je n'ai pas honte. Vous dites, oh, mais c'est pas vrai. Oui, c'est vrai. Appelez les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà. Mais avant d'aller plus loin, première chose que je veux faire, avec tous les yeux fermés, peut-être il y a quelqu'un ici ce matin qui n'a jamais reçu le don gratuit de la vie éternelle. Vous savez que la Bible est claire que tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais, bonne nouvelle, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et si vous voulez, ce matin, vous êtes ici, vous dites, « Pasteur, je crois en Jésus, je crois en Dieu, mais je ne sais pas à 100% si j'ai la vie éternelle ou non. Si je trouverai la mort aujourd'hui, je n'ai pas encore l'assurance d'aller au ciel, d'avoir une place réservée pour moi. » Je t'avais tous les yeux fermés. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui dirait, « Pasteur, je veux donner ma vie à Jésus. Je veux être né de nouveau. Je veux être chrétien pour vrai. Je veux suivre le Seigneur Jésus. » Je ne parle pas de vous joindre à notre église locale, mais je vous invite à faire partie de la famille de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui lèverait la main en disant, « Oui, c'est moi, j'ai besoin de donner mon cœur à Jésus ce matin. Je ne veux pas perdre une autre minute. Je veux être né de nouveau. » Si oui, levez votre main. On va juste prier avec vous et avec une prière sincère, avec un cœur sincère, le Seigneur va vous rencontrer. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Vous lavez la main. Sinon, il y a peut-être des personnes ici, vous êtes déjà nés de nouveau, mais vous avez besoin de cette force. Jésus a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Jésus a dit à ses disciples, vous êtes témoins de cette chose, mais restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et peut-être vous êtes ici, vous dites, moi je suis chrétien, je suis né de nouveau, j'ai aucune doute de mon salut, mais je manque la puissance, j'ai besoin de la force, j'ai besoin de cette force surnaturelle pour être un témoin puissant et efficace, pour être un ambassadeur qui est revêtu de puissance. Si c'est le cas, juste lever la main. Est-ce que quelqu'un qui a besoin de ça, de recevoir le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence initiale de parler en autre langue? Juste lever la main. Il y a au moins 2 personnes. Alléluia. Je vais vous inviter à venir ici en avant, ceux qui ont levé la main. Alléluia. Et on va prier pour vous pour recevoir cette puissance d'en haut. Alléluia. Encore. Soyez sensibles, soyons sensibles. Il n'y a pas de spectateurs aujourd'hui, on est tous des participants. Si vous n'avez pas besoin de ces choses, priez pour ceux qui sont en avant. Ajoutez votre foi avec notre foi pour qu'ils puissent recevoir. Alléluia.